ou c'est la question qui monte en ce début décembre et que l'on se pose tous. Va-t-on subir dans les semaines qui viennent des coupures d'électricité? On le sait, notre réseau électrique montre de sérieux signes de faiblesse. 20 réacteurs nucléaires à l'arrêt. Alors le gouvernement se prépare, donne des consignes au préfet et ces consignes, Pauline Simonet, vous les avez. On sait d'une certaine manière à quelle sauce on va être mangé.
Oui, effectivement, les coupures de courant, elles auront lieu lorsque la tension sur le réseau électrique sera trop importante. Il y a une échelle de niveau qui est bien connue sur le système d'alerte EcoWatt, c'est la météo de l'électricité, avec un niveau vert, vous le voyez, consommation normale, orange et rouge. Et c'est donc lorsqu'on sera au niveau rouge qu'éventuellement il y aura ces coupures d'électricité. Mais l'objectif du gouvernement, c'est que personne ne soit pris au dépourvu, ne soit pris par surprise. Il y aura donc un système de prévention, un système d'alerte. Les Français concernés seront prévenus d'abord 3 jours avant les coupures, alerte rouge, pour dire attention, si la consommation ne baisse pas, il y aura une coupure. Et puis, la veille, les Français concernés recevront un message. Au total, 60% des Français pourront être concernés par ces coupures, puisque le reste, 40%, font partie des catégories prioritaires, fragiles ou qui habitent près d'un site sensible. Alors, les sites sensibles, c'est quoi? Ce sont les hôpitaux, les casernes de pompiers ou les commissariats qui ne seront jamais soumis à des coupures de courant. Mais les coupures, en revanche, elles pourront concerner les écoles, par exemple, puisqu'elles pourront être fermées. Dans ce cas-là, elles seront fermées le matin. Les feux rouges aussi pourront éventuellement être concernés. Dans ce cas-là, la circulation sera évidemment interrompue dans ces zones. Et puis, les antennes relais, elles aussi, pourront être concernées. En revanche, pas de coupure pour les trains. Enfin, il y a des règles, évidemment, qui sont prévues pour la durée de ces coupures. Elles ne dureront pas plus de 2 heures d'affilée. Et ce sera uniquement au moment des pics de consommation le matin entre 8 et 10 heures. Et le soir, entre 18 et 20 heures, le délestage sera réparti de façon équitable sur tout le territoire. C'est ce qu'assure le gouvernement. Aucune région ne sera délaissée, aucune région ne sera discriminée.
Voilà, pas mal de réponses au sort, mais je sens que vous avez encore beaucoup de questions. Frédéric Bianchi est de retour avec nous, journaliste à BFM Business. Merci Frédéric d'être là. Je salue l'arrivée sur ce plateau de Sharon Vachebrotte. Merci d'être avec nous, journaliste aux Échos en charge de l'énergie. On a plein de questions pour vous et je vais vous soumettre d'abord une théorie. Après tout ce que vient de dire Pauline, c'est la théorie d'Antonin André. Antonin André qui nous dit, tout à l'heure, il n'y aura pas de coupure d'électricité cet hiver. Antonin, expliquez-nous pourquoi.
Parce que je pense que le gouvernement se prépare et met en place un dispositif pour alerter les gens sur le fait qu'effectivement c'est une possibilité, si l'hiver est très rigoureux, si on n'arrive pas à fournir tout le monde, mais que ça a aussi une vertu pédagogique, c'est-à-dire d'alerter les gens pour leur faire prendre conscience de ces tensions sur le réseau électrique et d'essayer d'appeler à la responsabilité de chacun, un peu comme on l'a fait sur le Covid. C'est-à-dire qu'il y a une façon simple d'éviter ces coupures si chacun a un comportement responsable, ce qu'a dit d'ailleurs le patron de RTE, il l'a dit très simplement, d'une phrase, mais qu'on a pas tellement retenu. Il a dit, si chacun adopte les éco-gestes et fait en sorte de moins consommer d'électricité et d'être raisonnable, il n'y a pas de raison qu'il y ait une coupure d'électricité. Donc, je vois dans la stratégie du gouvernement la possibilité que ça arrive, mais surtout une volonté de montrer qu'on est prêt si ça arrive, comment ça va se passer, mais surtout aussi pour sensibiliser les consciences au fait que on peut l'éviter.
Sharon Vachebrotte.
Vous avez tout à fait raison, c'est le but de ces communications, sensibiliser les gens pour qu'ils baissent leur consommation et précisément les éviter. Mais il y a une inconnue qu'on ne mentionne pas, c'est la météo, tout simplement. On ne sait pas quel temps il fera en janvier et c'est la principale inconnue. Et ça pourrait changer complètement la donne en France et en Europe, parce que cette année, à la différence des autres années, on dépend très largement des importations d'électricité de nos voisins.
Ça veut dire que s'il fait froid en France, c'est un premier problème. S'il fait froid en France, au Royaume-Uni, en Belgique, en Allemagne, on va avoir de sérieux problèmes pour importer de l'électricité.
On va avoir de sérieux problèmes pour importer de l'électricité. Et si par les années passées, c'était finalement pas si grave parce qu'on avait un nucléaire très, très puissant, beaucoup de centrales qui fonctionnent et suffisamment pour répondre à la demande en France, cette année, c'est plus le cas. Et on a voilà, donc on a cette incertitude là et c'est pour ça qu'il faut malgré tout s'y préparer.
Oui, il faut s'y préparer. J'ai lu que la cellule de crise interministérielle qui a été mise en place pour gérer un peu tout ça tablait aujourd'hui sur 6 à 10 jours de coupure. Est-ce qu'on est sur ces chiffres-là?
Alors, il faut bien avoir en tête, hein, vous dites 6 à 10 jours, que ceux qui nous écoutent, qui nous regardent comprennent bien, c'est pas 6 à 10 jours sans électricité. Hein. C'est 6 à 10 jours où on pourrait avoir des coupures, ce qu'on appelle des coupures tournantes, qui concernent un maximum de 4 millions de personnes à la fois, et sur 2 heures maximum.
Et jamais deux fois, normalement,
jamais deux fois successivement. Donc, on
ne
peut pas être coupé pendant 4 heures, on pourrait être coupé 2 heures maximum, pendant une plage horaire éventuellement l'approvisionnement le matin ou le soir pour baisser les pics de consommation. Mais c'est 6 à 10 jours, grand maximum. Voilà.
Et j'ai encore une question avant que Frédéric Bianchi se prépare, parce que j'ai une question en rafale pour vous, pour savoir ce qui va s'arrêter ou pas en cas de coupure de courant.
Très bien.
J'espère que vous avez toutes les réponses, parce qu'on a listé des choses qui nous paraissaient un peu... Enfin bref, je vous pose la question dans une seconde. Simplement, c'est 6 à 10 jours éventuellement. Le moment le plus risqué, c'est janvier.
Le moment le plus risqué, c'est janvier. Alors pourquoi ? Je voudrais juste revenir là-dessus. Pourquoi janvier, c'est le moment le plus risqué ? Parce que c'est le moment où on devait avoir le plus de nucléaire disponible. Mmh. Si on se rappelle bien, en septembre, EDF tablait sur 50 gigawatts de nucléaire branchés au réseau. Finalement, on sera plutôt autour de 40, si tout se passe bien. Mmh. Et pourquoi ? On a plein de raisons à ça. Le principal, c'est qu'on a des réacteurs qui ont été touchés par de la corrosion avec des travaux plus longs et beaucoup de grèves, des grèves qui ont retardé les travaux. Donc moins de nucléaire, une météo incertaine, des imports incertain. On a pourtant quelques bonnes nouvelles, mais qui ne viendront pas compenser. On a un peu plus d'eau, un peu plus d'hydroélectricité que prévu. On a du gaz, mais on n'a pas assez de nucléaire.
Bon, le problème, c'est janvier. Frédéric Bianchi, attention.
Oui.
Coupure tournante, on l'a bien compris. Oui. Dans les zones qui seront touchées, les écoles fermées, on l'a dit, ça peut être le matin, toute la matinée, etc. On l'a bien compris avec Pauline tout à l'heure. Les banques, fermées ?
Les banques, a priori, devraient être fermées. C'est vrai, c'est une excellente question. Bah oui. On va poser la question. Mais les banques ne font pas, a priori, partie des sites sensibles. On rappelle, il y en a 14 000 en France. Les banques ne devraient pas faire partie, normalement, des sites sensibles. Voilà, je peux me tromper.
BFM TV fermé ?
Bonne question. A priori non plus, BFM TV devrait être un site, pardon.
Vous êtes à côté du Pentagone français.
Oui, on est à côté
d'un hôpital. Alors, donc,
vous êtes d'un hôpital. Il y en a de fortes chances, comme on est entre l'hôpital
Pompidou
et le Pentagone français, on devrait être logiquement sur la même ligne. Les sites militaires et les hôpitaux ne seront pas concernés. Donc BFM TV...
Moi, j'avais posé la question à un ministre qui m'avait dit... Il n'y aura pas de fermeture.
Bon, il n'y aura pas de coupure.
Il y aura une antenne.
Et accessoirement, les chaînes de télévision doivent relayer l'information du gouvernement et de RTE pour connaître les gestes à suivre et savoir les zones qui seront concernées. Donc, les chaînes de télévision
Parce
ne devraient pas être fermées.
Notre boulot, à ce moment-là, ce sera de montrer sur la carte quelles seront les zones concernées. J-3, quelles seront les zones concernées. Et plus on arrivera proche de des coupures, plus ça se resserrera.
On ne pourra pas vous regarder si les gens, ils n'ont pas la.
Ce sera effectivement plus compliqué. Mais bon.
4 millions de Français ne pourront pas nous regarder.
Question toute bête. Je ne suis pas sûr que c'est peut-être une colle. Les digicodes. Qu'est-ce qu'on fait ?
Les digicodes dans les appartements ?
Ben oui, dans les immeubles.
Ça fonctionne très
bien. Ça fonctionne pas. Donc comment on rentre ? On sort ? Est-ce que les portes sont toujours ouvertes ? Honnêtement, on s'est posé la question. Je ne sais pas si vous avez la réponse.
Si on ouvre les portes.
Charles, mais.
Vous pouvez ouvrir les portes, oui.
Mais c'est pour ça, encore. Là, c'est vrai que c'est important de donner tous les détails.
Ben
c'est pour ça que ce qui est important, c'est la prévision. Quand vous avez habité dans des endroits où il y a des délestages, c'est dans beaucoup de pays africains, c'est le cas. Et le gros problème, c'est quand vous ne pouvez pas prévoir. Quand c'est un jour, toute la journée, parfois ça se poursuit sur plusieurs jours. Quand vous pouvez prévoir, et ça le but, on verra maintenant le système d'alerte, si les gens seront bien informés, seront bien inscrits, recevront les messages. Parce que dans ce cas-là, il faut se préparer et s'organiser.
On me dit dans l'oreillette que les digicodes sont prévus. En réalité, coupure de courant, ça s'ouvre évidemment parce que s'il y a un problème, un incendie, etc. Bah oui, mais ça veut dire que votre immeuble, ça veut dire que votre immeuble est ouvert pendant 2 heures.
Oui.
Non, mais ce qui est très intéressant, Maxime, c'est qu'il y a plein de points limites non identifiés. Vous parliez des digicodes. Il y a la question des feux de circulation dans les rues de Paris, parce que sachant que c'est pas
les rues de Paris et ailleurs, Benjamin Diamé.
Mais évidemment, je en sortant, bien sûr, toutes les métropoles et d'ailleurs toute la France, parce que c'est pas par ville, c'est pas en réalité quartier, c'est par générateur, c'est ces sortes de grands rectangles que vous pouvez voir. Donc, comment faites-vous si les feux de signalisation fonctionnent à un tel endroit et ensuite ne fonctionnent pas ?
Priorité à droite.
Non, mais de la même manière, les trains qui vont d'un département, un TER qui va d'un département à un autre, si telle zone est touchée par un délestage, avec de la même manière les signalisations qui ne marchent pas. Est-ce que ça veut dire que le train s'arrête, que le train ne part pas ? C'est plutôt ça, parce qu'on veut éviter qu'un train se retrouve coincé en plein milieu d'une voie par moins 5 degrés, sous la neige. Pas seulement à Paris, donc. Et donc, voilà. Donc, et ça, ils l'ont parfaitement identifié. Et d'ailleurs, moi, un ministre me disait même en s'amusant, en disant, on essaye de trouver tous les points et toutes les questions, mais il y aura toujours des choses qu'on n'aura pas prévues.
C'est pour ça qu'on les soulève ce soir.
Sur lesquelles il faudra essayer d'anticiper.
Sur les signalisations, ils seront concernés par les délestages. Donc, dans certains quartiers, et c'est d'ailleurs l'information qu'a donnée RTE, dans certains quartiers, il faudra éviter de prendre sa voiture, qui seront concernés par les délestages. Ça, c'est pour les feux. Et concernant les trains, alors les trains, c'est un peu paradoxal parce qu'ils seront alimentés, les trains a priori, pour qu'ils puissent terminer le trajet en revanche.
Mais pas
la signalisation des trains. Donc, les trains seront stoppés durant les 2 heures, si en tout cas, ils sont dans les zones concernées.
Pablo, lève la main.
Oui, tout tout à l'heure, Benjamin disait il y aura forcément des trous dans la raquette. Alors, il y a des trucs qui sont plus ou moins marrants. Enfin, le digicode, par exemple, pourrait poser des problèmes. Non, mais il y a des trucs, par exemple, qui sont très graves. Et je ne sais pas comment ça se passe au niveau des remontées des ARS, mais il y a des gens, par exemple, qui ont des respirateurs artificiels qui marchent sur le secteur. Et eux, je ne sais pas trop comment ça va marcher. J'imagine que les ARS...
C'est prévu, regardez. Réponse prévus. À votre droite.
Alors, ces gens-là ont été recensés par les préfectures qui font un travail de recensement depuis plusieurs mois, de travail avec les entreprises, etc. Et des solutions vont être anticipées pour ces gens-là. Certains vont être aiguillés vers des centres médicaux, d'autres pourront finalement se passer d'oxygène pendant un certain temps.
Enfin, oui, mais en fait, la peur et le risque, c'est que précisément, il y ait encore des trous dans la raquette. Et du coup, s'il s'avère qu'il y en a un qui a été oublié, parce que ça peut arriver, c'est 65 millions de citoyens, c'est quand même beaucoup, qui est responsable, en fait, de la chose? Est-ce que c'est le gouvernement?
C'est le préfet. D'ailleurs, la circulaire a été envoyée au préfet pour qu'il puisse informer, anticiper, et que toute la marche à suivre.
Parce que ça peut être très grave. Je veux dire, un respirateur artificiel qui s'arrête, ça peut être la mort derrière.
Évidemment. Frédéric, une chose, le téléphone portable, téléphone fixe.
Alors, les téléphones portables, pareil, ils dépendent de bornes. Alors, les téléphones fixes, non, s'il y a un délestage, là, on n'a plus de téléphone fixe, c'est terminé.
Ah, sauf les très vieux téléphones, les vieux téléphones avec la prise en T dans le mur.
Que le réseau fonctionne
encore. Non, ça continue à fonctionner. Là, j'ai vérifié. Portable, en revanche, vous dites
le
non.
Le portable, en revanche, votre batterie continuera à fonctionner. En revanche, vous n'aurez plus accès aux bornes qui ne seront plus alimentées en électricité. Le téléphone pourra borner, comme on dit, sur d'autres bornes. En revanche, ces bornes risquent d'être prises d'assaut. Donc, même dans les grandes métropoles, parce qu'on parlait tout à l'heure des zones blanches où n'est plus alimentée, la borne suivante est à 50 km, on n'y a pas accès. Mais même dans les métropoles, les bornes restantes qui resteront alimentées risquent d'être surchargées et donc il pourrait y avoir des coupures de téléphone le temps du délestage.
Ça pose un problème très simple, c'est l'accès au numéro d'urgence. Et le gouvernement l'a bien mentionné, tous les numéros, le 15, le 17, ne fonctionneront potentiellement pas. Et donc, ils incitent, ça figure dans cette circulaire, à utiliser plutôt le 112. Pourquoi ? Parce que le 112 permet d'utiliser toutes les antennes relais. Donc, il a plus de chances de fonctionner.
Et dans les zones où il n'y a rien, vraiment pas du tout de téléphone, ce qui est demandé aux préfectures, c'est d'organiser des îlots de secours où on pourra, qui seront communiqués dans la presse, etc., où on pourra aller en cas de problème.
Et des patrouilles. Ce qui montre encore une fois...
Quand on parle de ça, de ces îlots de patrouilles, etc., ça montre...
Mais c'est un sorte de changement de modèle pour, encore une fois, des situations qu'on ne pensait pas possibles ou alors seulement dans les récits que pouvaient nous faire nos parents ou nos grands-parents. Et cela dit aussi, quand on parle de patrouille et d'îlotage pour ceux qui ne pourront même pas utiliser le 112, la double peine de ces gens-là, parce que ceux qui ne pourront pas utiliser le 112, ce ne sont pas les urbains, ce ne sont pas ceux qui vivent dans des métropoles, ce sont précisément des gens qui vivent dans des zones rurales, dans des zones blanches, qui ont déjà toute une série de difficultés d'accès aux services publics, de centres-villes qui se dévitalisent, parfois dans des endroits où il n'y a même pas un commerce où se retrouver. Et donc on va avoir, en plus de la fracture énergétique, une sorte d'accroissement de la fracture sociale et territoriale à travers ces risques de délestage. Et d'un tout petit mot, et j'en termine par là, si cela arrive en janvier, il y aura indéniablement un procès qui sera fait au gouvernement. Comment en est-on arrivé là? Et là, c'est intéressant parce que ce que vous disiez sur l'état du parc nucléaire, pour ceux qui nous regardent, c'est pas à cause de la guerre en Ukraine ce qui est en train de se passer là, c'est précisément en immense majorité à cause du parc nucléaire. Deux, quand on regarde des choix qui ont été faits par Emmanuel Macron, par exemple, tout simplement, si Fessenheim n'avait pas été fermé, les deux réacteurs, c'est 12 TWh par an. Peut-être que ça n'aurait pas tout réglé, mais simplement, on voit bien qu'en termes d'approvisionnement d'électricité, on aurait quand même été dans une situation un peu moins délicate. Par exemple, certainement, éviter de rouvrir la centrale à charbon.
Vous mettez deux sujets sur la table. Vous mettez deux sujets différents sur la table. Sur la différence entre territoires, Charles Dagebrand, vous confirmez que, de fait, vu qu'on a bien compris que les personnes qui habitent à côté d'un hôpital, d'une caserne, etc., c'est-à-dire dans les grandes villes, ont beaucoup moins de chances d'être touchées que dans les zones plus rurales. Ça veut dire qu'il y aura cette différence-là.
Oui, en théorie, il y a un principe d'égalité pour ces coupures. Il parle d'une peau de léopard, on tâche sur le territoire. Mais dans la pratique, la région parisienne sera beaucoup moins touchée puisqu'il y a beaucoup plus de points sensibles, d'infrastructures critiques. Donc, effectivement, on pourra moins couper la région parisienne que le reste du pays.
Pour rebondir sur ce que disait Benjamin sur le nucléaire, ça veut dire qu'il faut qu'on se prépare parce que ça va pas être juste cet hiver. C'est-à-dire qu'il manque aujourd'hui, 90 000, 100 000 personnes dans le nucléaire, des techniciens, des ouvriers, des tuyauteurs, des gens pour s'occuper de la maintenance, parce que on est victime des choix stratégiques ou de l'absence de choix stratégiques depuis 10 ans sur le nucléaire. Et donc, en fait, cette situation qu'on vit là, enfin, je vous pose la question, elle risque de se reproduire aussi l'hiver prochain et celui d'après. On ne va pas, à claquement de doigts, remettre en ordre tout le parc nucléaire français.
Alors, on a deux problèmes pour l'hiver prochain. Et finalement, ce n'est pas tant lié au manque de main-d'œuvre qu'à un effet domino dans le nucléaire qui a commencé avec le Covid-19. Avec le Covid-19, il y a énormément de maintenances qui ont été décalées parce que les gens sont restés chez eux, parce qu'on a fait que ce qui était urgent. Et on s'est retrouvé avec un planning de travaux dans les centrales complètement chamboulé. Et à ça, s'est ajouté une catastrophe imprévue, la découverte de corrosion sur une dizaine de réacteurs qui ont dû être mis à l'arrêt pour être surveillés, réparés, etc. Et donc, un parc qui s'est retrouvé avec une montagne de travaux à réaliser, et tout ça décale comme ça sur 2-3 ans.
Mais ce que dit Antonin, c'est, est-ce que ça veut dire que le problème, c'est crainte de coupure cet hiver? Est-ce que dans un an, dans 2 ans,
elles vont se reproduire? Alors, en fait, à ça s'ajoute la crise en Ukraine qui, aujourd'hui, finalement, on a l'impression qu'on la sent peu parce que les cuves de gaz sont pleines, parce que les réserves sont pleines. Mais il va y avoir un sujet très sensible pour l'hiver prochain. Comment on va remplir nos réserves de gaz qui, aujourd'hui, sont en grande partie pleines de gaz?
Donc, le risque de coupure, il va se répéter.
Il va se répéter parce qu'on ne peut pas imaginer développer des capacités de production électrique en un an de façon
ou
très
être plus
importante.
Sobre.
Oui. Alors justement, remarque intéressante de Pablo comme d'hab, comme d'habitude. Non mais on peut encore éviter de se prendre ce mur de la coupure. Il y a quand même quelques petites choses qu'on peut faire. Mettre à l'arrêt des sites très gros consommateurs d'électricité. Il y en a, je crois, 14 qui sont répartis en France, très notamment dans l'industrie, très gros consommateurs qu'on peut mettre à l'arrêt pour gagner un peu. On peut baisser la tension qui est envoyée dans les foyers, c'est-à-dire que les ampoules brillent un peu moins. Et puis, il y a la sobriété. Est-ce que la sobriété peut nous aider réellement à éviter les coupures?
Alors, elle nous aide déjà énormément. Il faut se rendre compte que depuis le mois de septembre, la consommation en France a baissé de 5 à 7% sur l'électricité.
Oui, mais là, c'est pour l'industrie, réalité. C'est pas forcément chez les particuliers, c'est l'industrie qui fait le gros de l'effort.
Il y a les particuliers. C'est vrai que l'industrie fait le gros de l'effort, mais les particuliers ont aussi baissé leur consommation. C'est le plan sobriété du gouvernement et ça va se poursuivre. Et cette baisse de consommation, finalement, elle fait que, dès à présent, on n'a pas de coupure de courant. Et ça nous sauve quelque part, et ça peut aussi nous sauver sur le reste de l'année.
Juste un chiffre pour relativiser sur les coupures, les délestages éventuels. RTE nous dit que chaque année, chaque Français voit son électricité coupée 1 heure dans l'année. Chaque Français, vous, moi, chez vous, on n'est pas là, on est au travail, on ne s'en rend pas compte. 1 heure par an, là, si c'est 2-4 heures, on va survivre.
Et juste par rapport à ce que disait Benjamin tout à l'heure, ce que Benjamin disait, oui, on a l'impression d'entendre nos grands-parents, il faut aussi savoir, désolé, je te fais sortir de Paris, puis après sortir aussi de la France, dans le monde, il y a aussi beaucoup, non mais il y a beaucoup de gens, hélas, qui vivent les coupures d'électricité.
Pablo, vous avez raison, c'est pour ça, bien sûr, pour pas passer pour quelqu'un qui est totalement franco-centré, je parlais bien de la France, parce que
vous avez raison,
et il y aurait même une forme d'indécence à penser cela quand on voit qu'en Ukraine, précisément, on a toute une immense majorité du territoire qui est précisément touchée par ces coupures d'électricité, d'eau et autres.
Ce que vous dites m'appelle à une toute dernière question, Sharon. Est-ce que ces débats que l'on a là, ces travaux préparatoires et ces nœuds au cerveau qu'on se fait en ce moment, les Belges, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, ont les mêmes en ce moment? Il y a les mêmes risques de coupure ailleurs?
Oui, les Britanniques d'ailleurs ont déjà eu des alertes de leur réseau. Tout le monde est dans la même situation parce qu'on est sur un réseau interconnecté. Le nucléaire fournit toute l'Europe habituellement. Le nucléaire manque à la France et par définition, il manque aussi au reste de l'Europe. Mais ce que vous dites est très intéressant. C'est pas du tout inéluctable, ces coupures. On a plusieurs façons de les éviter. On peut couper des industriels, on peut baisser la tension sur le réseau. En dernière instance, on a des coupures et finalement, d'autres pays les vivent avant nous.
On va suivre ça. Merci beaucoup, Sharon Vachebrod, d'avoir été en direct avec nous. Merci, Frédéric Bianchi.